à chercher ce qui me reste à faire.
Voilà, de retour pour cette seconde heure d'émission et cette troisième interview, troisième rubrique avec Benoît Pretseil. Bonsoir, j'allais dire, c'est l'habitude. Bonjour Benoît, parce qu'il n'est pas si tard. Alors Diabologum, dans ce morceau, on dit que l'art est mort, mais il ne l'est pas encore, il faut le tuer, etc. etc. On se disait que c'était une bonne piste pour commencer l'interview avec toi. Par rapport à l'art et le sang, mais aussi aux deux autres bouquins parus à la cinquième couche, où le questionnement autour de l'art est quelque chose d'assez récurrent. Et donc voilà, c'était un peu notre première question, d'où vient cette idée de parler de ça, de questionner l'art, et quel est le lien que tu fais éventuellement avec la bande dessinée par rapport à cette réflexion. Question à 1000 points, tu as deux bonnes heures, plus ou moins.
D'accord, alors reprenons à l'origine des choses. En fait, je faisais des études aux arts déco, en fait, et j'étais rentré pour faire de la bande dessinée au départ, et puis en fait, finalement, je me suis déplacé vers la muséographie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert complètement à ce moment-là. Je connaissais pas du tout le langage de l'espace et de la construction en espace. Je voyais à peu près ce que c'était de composer une page, mais composer une pièce, je voyais pas du tout ce que ça voulait dire. En fait, j'avais fait un ou deux exercices de muséographie qui m'avaient beaucoup intéressé. Et en fait, suite à ça, j'avais choisi de suivre la section scénographie. Et dans cette section-là, en fait, j'ai surtout appris à lire des choses et à essayer de voir comment mettre en forme et mettre en scène des choses, quoi. Et notamment l'exercice sur les exercices de muséographie et sur l'art m'ont permis de me poser un certain nombre de questions, et notamment la question à 3000 points qui est qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est d'être un artiste et qu'est-ce que c'est de créer une œuvre. Et en fait, c'est des questions dont les réponses varient un peu selon la seconde à laquelle on parle et selon l'endroit dans lequel on est. Et c'est pour l'instant une question que j'ai eu envie de creuser et de pousser un petit peu dans mes différents livres. Donc je me suis posé cette question-là, notamment dans Les Eaux de Francis Picabia, où j'essayais de mettre un petit peu en lumière des passages de sa vie, des épisodes qu'il a pu vivre, qu'il a pu ne pas vivre, que j'ai inventé ou que j'ai extrapolé, et pour essayer de comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre sa vie à lui et ses œuvres. Après, dans L'art et le sang, là, c'est une espèce de jeu avec le personnage de Fantomas, en fait, qui décide de devenir le plus grand artiste de tous les temps et qui du coup base ses œuvres sur la destruction plutôt que la construction. Et pour moi, c'est une façon assez valable de faire de l'art, et c'est parce qu'il y a eu toute une construction autour de l'objet artistique qui peut être intéressante et plutôt vivifiante à mettre en question et à détruire aussi par moments, quoi.
Est-ce que ton expérience muséographique a influencé ce que tu peux connaître, la force de ton style, ton approche de la mise en page?
Oui, complètement. Enfin. J'ai l'impression que ça m'a ouvert des portes pour faire de la bande dessinée un petit peu autrement, en tout cas, et notamment essayer de sortir de la bande dessinée trop liée avec le cinéma. En fait, moi, j'ai tendance à plus avoir envie de développer des choses dans un univers plus clos. Enfin, pour moi, ça ressemble un peu plus à du théâtre qu'à du cinéma. En fait, les plans, je suis pas hyper intéressé par ça. Souvent, j'ai développé un système de mise en page avec des pages très vides, et donc, où du coup, on voit souvent les personnages en pied. Enfin, c'est une méthode un petit peu différente, quoi.
C'est des dessins plutôt flottants, beaucoup de textes, ben, ça dépend des fois, mais voilà. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans un gaufrier où tu sors complètement de ça, en fait.
Ben là, j'en viens à avoir besoin de cases pour mes nouveaux projets, donc du coup, je reviens un petit peu à la case, mais ça me paraissait vraiment intéressant et ça me paraissait être une piste à explorer, en tout cas. Enfin, un de mes premiers livres, c'est un petit peu sérieux, c'était l'écume des jours, où là j'avais décidé de me cogner à l'écume des jours de Boris Vian, qui était un livre complètement inadaptable en bande dessinée normale. Et de fait, ce projet là pour moi, c'est vraiment une matrice où j'ai cherché énormément de choses, plein de façons différentes de lier le texte et les images, plein de façons différentes de dessiner, même suivant les passages. Et du coup, ça m'a ouvert certaines pistes que j'ai refermées immédiatement et d'autres que j'ai un peu plus poussées dans mes livres d'après. Mais sans repousser la case a priori, enfin, c'est un système qui peut être intéressant aussi par moments.
Alors, il y a chez les auteurs de bande dessinée, on retrouve régulièrement une haine de l'art contemporain. Je repense à des textes des Requins Marteaux qui disaient l'art contemporain, il en a rien à foutre de nous, et nous, on en a rien à foutre de lui non plus. Donc, alors, en lisant L'art et le sang, je me disais, tiens, c'est de nouveau un canevas d'un mec qui va pasticher l'art contemporain, l'art moderne, et se foutre bien de sa gueule. Et en même temps, en lisant le bouquin, on se dit, ce type connaît très très bien son sujet. Il y a une vraie connaissance de l'art moderne chez ce gars. Et donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On en a discuté hier soir, parce que l'avantage d'être ici à Sismic, c'est qu'on peut rencontrer des gens, discuter avec eux, avec de la bière ou sans bière, en pleurant ou en se mettant des points dans la figure. Donc, je vois que t'as un peu, ton œil va mieux aujourd'hui.
Tu ne vas pas soigner non plus.
Oui, ouais, bonne côtelette, valaisanne, et l'affaire est partie. Et donc, par rapport à ça, tu me disais hier. Qu'est-ce que tu reprochais grosso modo à l'art moderne et contemporain, c'est que on avait pas mal de faussaires, et que dans le fond la bande dessinée était un médium beaucoup plus honnête, dans le sens où quand on voulait faire un récit qui ait une certaine ampleur, eh bien il fallait se mettre au travail et il fallait le produire, et que le fait de cette somme de travail à produire filtrait déjà toute une série d'imposteurs et donc faisait accéder à la bande dessinée quand même des gens qui en valaient la peine. Est-ce que c'est donc ça?
Ben, pour moi, oui, c'est ça. Il y a toute une notion de posture où, dans l'art contemporain, et qui a commencé avec l'art moderne, qui est de se signaler soi-même comme artiste. Et à partir de ce moment-là, des gens peuvent abonder dans ce sens-là. Et pour moi, c'est cette chose-là qui pose un peu problème, de pas avoir a priori besoin de poser une œuvre valable sur la table pour être validée par d'autres gens.
Le discours est parfois plus important finalement que
voilà.
Le produit.
Et en fait, moi, j'ai grandi dans une région plus qu'emmerdante de la France, et je suis monté à Paris quand j'avais 18 ans, et là, à ce moment-là, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment poussé à pousser en fait toutes les portes des galeries, et j'ai bouffé de l'art moderne et contemporain pendant 3-4 ans d'affilée, à aller voir des milliards d'expositions, etc. Et je me suis vraiment forcé à essayer de comprendre, à rester devant des vidéos qui duraient 4 heures, à essayer de lire tous les textes, tous les machins et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que le temps que je passais à découvrir certaines œuvres n'était pas légitime, qu'il y avait des gens qui essayaient de m'endormir avec des concepts fumeux, Après, il y en a d'autres qui ont été des découvertes magnifiques. Enfin, moi, je suis un grand fan de Claude Lévesque, par exemple, qui, en général, avec ses, à chaque fois ses installations, m'émeuvent profondément. Quoi.
T'émeuves carrément.
Oui, vraiment. Oui, oui. Il y a des gens comme Bertrand Lavier qui, pour moi, ont une force plastique hallucinante. Quoi. Et...
Étonnant, alors que Lavier, par exemple, c'est quelqu'un qui produit très peu ses œuvres. Il les fait produire beaucoup.
Ben, peut-être, mais en tout cas, il doit les réfléchir et il doit les voir à un moment quelconque. Quoi. Je vois pas autrement, parce qu'il y a des espèces d'évidences plastiques comme ça, aussi bien chez Lévesque que chez Lavier, qui tout d'un coup, on ne peut rien changer à l'œuvre, pas la position de la moindre chose, sans que ça devienne rien en fait. Et donc il y a des gens que j'ai trouvé valables et que je continue à trouver intéressants la plupart du temps, et puis d'autres où je me suis rendu compte que c'était complètement inutile d'essayer de comprendre et de réfléchir à quoi que ce soit, parce que ce n'était qu'une espèce d'embryons d'idées qui étaient montées en graines grâce à une armée d'assistants à qui on a dit tiens, ce serait marrant si on faisait ça. Et finalement, il y a des gens qui ont travaillé pendant 4 mois pour que ce bidule soit montré, mais où le sens est absent et où je considère qu'à ce moment-là, je suis pas obligé de regarder, je suis pas obligé d'aller voir ça, je suis pas obligé de réfléchir là-dessus.
Est-ce que, voilà. Dans ce cadre, est-ce que le travail devient, la quantité de travail, mettons, devient une valeur en soi pour l'évaluation?
Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est... Non. Par exemple, si Bertrand Lavier ne fait absolument aucune de ses œuvres physiquement, ça me dérange pas. Mais c'est juste, il faut, à mon avis, pour être un artiste, pour se prétendre artiste, avoir au minimum une vision. Et des idées me semblent pas suffisantes. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision, à mon avis.
C'est ça, ça se résume juste à s'exprimer. Donc,
Non, c'est... Oui,
Ou juste occuper l'espace d'une galerie.
Voilà, quand créer, c'est juste faire un objet pour le montrer dans une exposition, ça me dérange. Quand créer, c'est indispensable et que ça sort de quelque part et que ça veut dire quelque chose, que ce soit compréhensible au premier abord ou pas, ou jamais, ça je trouve ça valable. Voilà. Mais après, c'est un critère que je me suis déterminé. Après, je prétends pas avoir le critère absolu.
Non, après, il y a la réflexion déjà dans l'art et le sang et dans les bouquins qui naît en fait dans les bouquins précédents aussi, qui est intéressante. C'est vrai qu'après la vérité et tout ça c'est d'autres choses quoi, mais il y a déjà en tout cas cette réflexion par rapport au musée. Alors, j'ai pris note, mais c'est quoi dans l'art et le sang, c'est quoi le nom du musée?
Dans tous les cas, n'hésite pas.
Le musée sans intérêt.
Voilà, le musée sans intérêt, le MSI. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand on lit le bouquin aussi, ça pose aussi des questions sur la manière dont finalement on va voir des expos. Enfin voilà, donc il y a des choses qui s'enclenchent. En tout cas, moi quand je l'ai lu, il y a vraiment plusieurs choses qui se sont enclenchées et qui peuvent après générer
pour moi,
une réflexion.
C'est vraiment quelque chose de qui pose problème en tout cas de savoir qu'est-ce qu'un musée, simplement, qu'est-ce que ça veut dire. Et un musée, c'est jamais quelque chose de pur, enfin comme toutes les productions humaines, mais particulièrement là, il y a toujours une volonté politique, une volonté de marquer quelque chose, une appartenance à quelque chose, de marquer un dynamisme d'une région, c'est tellement loin d'être innocent en fait, et pour moi ça me semble vraiment gênant de sanctifier en fait certains artistes et de considérer qu'ils créent de façon totalement abstraite par rapport au monde quoi, et simplement c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Picabia, c'est d'essayer de réfléchir sur la condition physique de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose quoi, et de qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire une œuvre d'art quoi, de quand on se lève le matin on se dit tiens je vais faire une œuvre, y a à peu près 300 millions de façons de commencer à faire une œuvre, en fait. C'est... Y a pas, on a tendance à nous faire croire qu'il y a une seule façon et que c'est complètement intellectuel, hyper pensé, ou bien au contraire romantique, exacerbé et écorché.
Et par rapport à ça, quelle est ta méthode de production? Est-ce que tu es quelqu'un plutôt cérébral? Tu es quelqu'un qui est plutôt un dessinateur compulsif? Où est-ce que tu te situes par rapport à ça?
Alors moi, c'est un beau bordel aussi. En fait, en général, j'attends que ça me soit nécessaire. C'est-à-dire que je laisse décanter les choses longtemps. Je marche, je fais autre chose, je vais faire des courses, je bidouille sur Internet. Jusqu'à un moment, je me dis, tiens, cette scène, il faut absolument que je la dessine. Et c'est à ce moment-là que je la dessine, et ça peut aller très vite. En fait, ça sort souvent... vraiment rapidement, et après je retravaille le truc, je la remets en forme, en fait. Et pour moi, il y a vraiment différents temps de travail, en fait. C'est pas du tout en continu, c'est pas du tout régulier, c'est vraiment par impulsion, en fait. Et c'est pour ça que les livres les plus personnels que j'ai faits sont souvent sous forme de petits chapitres, en fait. C'est parce que c'est des scènes qui m'ont paru intéressantes à faire à un moment. Et après, je fais le montage, je vois laquelle doit aller avant laquelle, s'il en manque une, par exemple, pour faire le lien entre deux scènes. Enfin, c'est vraiment du... Là, pour le coup, quasiment un acte cinématographique de se dire, bon, on fait d'abord les rushs et puis après on fait du montage pour voir ce que ça donne en entier. Et s'il faut jeter la moitié, on jette la moitié, c'est pas grave. Voilà.
Ce qui est très fabuleux, je trouve aussi, dans les livres que j'ai lus, en tout cas entre L'art et le sang, L'histoire belge et l'oiseau de Francis Pecabia, c'est qu'on a l'impression que c'est quasiment une méthode d'investigation où tu appliques à des choses très, très diverses, avec des armes aussi très diverses, parce que entre Fantomas et même l'histoire belge, on a l'impression que tu interroges un peu l'esprit d'une nation basée sur sa culture, et puis Pecabia, Duchamp, qui est à la fois une réflexion, et puis cette longue scène de poursuite en voiture. Est-ce que tu es vraiment faisceau aussi d'intérêt, de source d'intérêt qui est très très large?
Bah, moi j'ai l'impression que au contraire, que mes sources d'intérêt sont assez limitées, mais ça parle toujours en général de l'acte artistique quand même. Enfin, je commence à m'agacer un peu moi-même de ça.
Oui, on a eu pas mal de messages d'auditeurs et tout ça qui ont dit, est-ce que vous pouvez lui demander de changer de sujet, quoi, d'arrêter.
J'y pense.
Après, on fait que transmettre, hein, mais voilà. Voilà. Il y a d'autres sujets, quoi. Mais bon.
Mais je suis en train de penser à virer de bord complètement. Ouais. Mais en fait, en général, moi, j'ai surtout envie de partager mes curiosités, en fait. Et du coup, l'histoire belge, c'était vraiment une série de curiosités que j'avais eues par rapport à des artistes belges divers et variés. Donc ça allait de Marcel Brouders à Bruegel, en passant par Delvaux. C'est des gens qui m'ont questionné et qui m'ont un peu perturbé à certains moments, quoi. Donc du coup, j'avais envie de partager ça avec d'abord moi-même, très égoïstement, et puis après éventuellement des lecteurs, quand je me suis dit que ça pouvait en faire un livre au bout, quoi. En fait, il y a des gens dont je vais voir les œuvres régulièrement dans des musées, puis bon, à un moment je me dis, tiens, là j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, et ça va peut-être finalement juste faire deux pages dans un de mes livres, ou j'ai la sensation de pas être suffisamment intéressant pour raconter ma vie. Et du coup, je préfère parler de gens qui me paraissent intéressants.
C'est d'ailleurs plus que moi. Assez symptomatiquement ton Fantomas, puisque tu ne l'appelles plus Fantomas pour des questions, si j'ai bien compris, de droit.
Oui, essentiellement.
Et ton Fantamas est un personnage qui est un écorché vif, en fait, qui est un personnage qui lui-même n'a pas de visage, en fait, et donc qui prend des masques pour exister dans le monde extérieur, qui prend des masques même pour raconter ses histoires. Donc il y a cette idée que l'artiste dans le fond est pas très intéressant, n'est intéressant que les masques qu'il peut prendre.
L'être humain est globalement pas quelque chose de très intéressant. Oui, c'est ce qui fait après qui peut le devenir, mais oui, enfin.
C'est quand même assez étrange parce que je m'étais dit en relisant L'art et le sang, je me disais, tiens, dans le fond, est-ce que dans le fond Thomas d'origine, donc dans la littérature de gare dans laquelle est né ce personnage, est-ce que il avait ce mode d'apparition? Et tu m'as dit non, pas du tout, c'est une invention à moi.
Surtout, il faut, enfin. Moi, Fantomas, je me suis emparé de ce personnage-là parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a une réputation gigantesque par rapport aux œuvres qui ont été faites pour l'instant, sur lui. Faut quand même revoir les films de Louis Feuillade de l'époque qui sont vraiment à se pisser dessus de rire, quoi. C'est censé être un démon hallucinant qui fait des meurtres terrifiants et tout. Il y a quand même un épisode qui s'appelle Le mur qui saigne, où en fait toute l'intrigue consiste à se dire, tiens, il y a un mur qui saigne dans un appartement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que Fantomas a caché un corps de quelqu'un qu'il avait tué derrière, et en fait le sang finit par couler par l'intermédiaire du plâtre. Enfin, c'est vraiment une intrigue complètement hallucinante, quoi. Et Fantomas lui-même, il se cache sous un espèce de chaperon noir. Il se planque sous un espèce de chaperon noir complètement ridicule. Et en fait, il fait vraiment peur à personne, quoi. J'ai découvert que les romans de Souvestre Alain, c'était à peu près du même niveau, quoi. C'est vraiment du roman feuilleton très très mauvais. Qui traîne en longueur pendant des centaines de pages.
Qui était récurrente par rapport à ça, j'avais l'impression.
Moi, ce que j'en ai lu, c'est même pas grotesque, c'est vraiment juste du remplissage, quoi. Il y a quand même une intrigue de 100 ou 300 pages sur le bouquet empoisonné, où en fait, il y a plein d'hommes politiques qui sont assassinés, on ne sait pas pourquoi ils meurent, et en fait, finalement, on finit par découvrir que c'est parce qu'on leur a offert un bouquet de fleurs, genre quelques heures avant qu'ils meurent, et qu'il y avait un poison maudit qui était caché à l'intérieur des fleurs et qui les tuait, quoi. Enfin, c'est vraiment de cet acabit-là, quoi. Et donc, du coup, le personnage, vraiment, pour être un génie du mal, pour moi, il faut faire un petit peu d'autres trucs, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il est devenu fascinant par la force de l'image, en fait, juste par la couverture des premiers romans, cette espèce de tête mystérieuse qu'il lui avait donnée dans les films avec. Pourquoi il m'échappe ce nom ? Enfin, dans les films de Fantomas des années 70.
Avec Louis de Funès.
Avec Louis de Funès, voilà, Louis de Funès.
Je n'osais pas le dire.
Jean Marais. Mais le masque, plastiquement, est magnifique. Mais après, le reste, les intrigues, il faut quand même se souvenir. Le premier film de Fantomas, donc Fantomas, le génie du mal, je vous rappelle, qui va dans une bijouterie, qui fait un chèque pour acheter des bijoux. Et en fait, quand il part, il avait signé le chèque avec de l'encre sympathique, et du coup la signature disparaît. Wow. Donc le bijoutier ne peut jamais encaisser le chèque. C'est vraiment
ça, c'est
diabolique.
C'est plus que machiavélique, quoi. C'est terrible. Ça fait froid dans le dos.
Donc moi, j'avais quand même envie de lui offrir un petit peu plus de corps, quoi. Ouais. Un vrai but, quoi. Détruire l'art et devenir le plus grand artiste de tous les temps. Ça, c'est, à mon avis, c'est un peu de gueule, quoi.
Un truc dont on n'a pas tellement parlé, enfin, les gens s'en doutent un peu, c'est Fantomas et tout, mais la cruauté, c'est hyper présent dans ton travail. Il y a quelque chose de. Attention, ne vous méprenez pas. Je me rappelle avoir feuilleté le livre tranchant chez Maelstrom, qui est quand même une série de lettres. Voilà, et c'est aussi présent dans ta BD avec Fantomas. Enfin, Fantomas, il y a quelque chose de terriblement cinglant quand il met en scène, quand il habite certains personnages.
C'est parce que je suis quelqu'un de très méchant, en fait. J'ai vraiment, enfin, quand je Mais c'est vraiment... Oui, j'ai besoin d'expulser un certain nombre de trucs violents, et c'est pour ça que quand je monte sur une scène, c'est plutôt pour hurler...
Parce que ton disque s'appelle Savant Tranchant. Donc
des trucs atroces, oui.
Il y a une méchanceté... Enfin, je trouve que méchancetés, il y a des méchancetés bêtes, mais je trouve que la tienne est assez intelligente, quoi. C'est vraiment un truc sur...
Merci.
Je ne voudrais pas vous décevoir, ne vous méprenez pas, je vous annonce la couleur tout de suite, et c'est un truc, c'est effectivement tranchant, c'est pour ça que c'est un mot qui est assez récurrent dans ton travail, je trouve qu'il y a un truc, ça est terriblement incisif.
J'ai l'impression que la plupart des œuvres intéressantes se font quand même dans un certain risque, en fait, et de fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt de prendre les gens par le côté qu'ils ont envie, en fait. J'ai tendance à plutôt préférer les choses qui grincent un peu, les choses qui déstabilisent un peu. Après, je le fais à ma façon. Pour moi, Fantamas, ça reste quand même quelque chose d'assez drôle et de...
Oui,
de
pas mal d'humour.
C'est plus du coin guignol que de la peinture mentale.
Ce qui est marrant,
quoi,
c'est que c'est aussi très opposé avec ton trait qui est une ligne claire, qui est quand même quelque chose d'assez doux et en fait très séduisant. On n'a pas parlé de l'objet en soi, mais la bichromie est magnifique. Il y a quelque chose de terriblement séduisant comme ça, avec parfois, vous êtes offert avec Cornelius des pages rouges. Donc, à la fois c'est beau, à la fois c'est comme si c'était une page de sang, comme ça, c'est très ambivalent.
À la fois, ça fait
ça,
peur.
Quoi. Non, mais il y a un truc où c'est cinglant, c'est tranchant, ça gicle, et puis en même temps, c'est très séduisant. Quoi. Donc, et tu peux aussi te marrer. Donc c'est vraiment,
Pour moi, il y a vraiment tout un tas d'orthodoxies qui sont à éviter, en tout cas, sinon à bannir. Et dessiner des choses atroces avec un dessin qui dégouline et qui est atroce lui-même, en fait, ça fait partie des codes qui finalement sont acceptés par une certaine frange alternative et tout un underground qui a tendance à regarder tout le temps les mêmes images et à plus être choqué et à être finalement rassuré par des images de zombies atroces qui s'arrachent la tête. Ce qui est intéressant finalement, c'est d'aller un peu à la lisière, quoi. Moi, je suis fasciné plus par l'horreur qu'il peut y avoir dans certains épisodes de Blake et Mortimer que dans des gravezines atroces avec des scènes de torture, quoi. Il y a pour moi ça sert à rien de démontrer le fait qu'on va être horrible en dessinant horriblement. Et pour moi, la narration doit d'abord être claire et accessible. Et plus ça va, plus j'ai l'impression de faire des livres qui peuvent être lus par plus de gens, en fait, et qui sont plus faciles à appréhender. Et je suis vraiment content de ça, en fait, de me dire que oui, il y a des gens qui pourront, sans avoir jamais lu de BD alternatives, tomber sur mon graphisme et se dire tiens, ça peut être pour moi. J'ai pas envie de poser une barrière de prime abord en disant voilà, laissez tomber, vous êtes pas des gros quepons, vous comprendrez jamais ce que je veux dire, quoi.
Est-ce que c'est pour ça que dans cette vision un peu plus complexe ou plus multifacette d'une même histoire, tu abandonnes et tu lui coupes les jambes, et il y a cette scène avec la boucheur où elle l'emmène via une tresse quand même deux mains et une langue, et elle l'emmène dans la chambre, et tout d'un coup, cette espèce de génie du mal en pleine ascension se retrouve transformé en objet sexuel par une boucheur qui l'a sauvé de la prison, et tout d'un coup ça devient ultra burlesque et très drôle.
Je sais pas, moi ça me paraissait être une belle façon de parler de l'amour, en fait. C'est de... Il y a quelque chose de très conquérant, en fait, parfois dans la sexualité masculine, qui est de on conquiert une femme, on la pénètre avec une épée tranchante. C'est vraiment quelque chose de très violent. Et en fait, moi j'avais l'impression que Fantamas, il avait jamais eu que ce genre de sexualité-là, quoi. Donc du coup, le fait qu'il perde ses jambes et son pénis, c'était un traumatisme terrible pour lui. Après, même si c'était lui qui se l'était infligé comme une sorte de suicide magnifique, mais
Et du coup, le fait qu'une femme le reprenne en main et lui fasse découvrir un autre plaisir, et un plaisir plus doux et pas conquérant, justement, qu'il soit dans l'échange, ça me paraissait être une jolie chose à mettre dans ce livre-là.
Un peu d'amour et de tendresse, bordel.
Bah oui, mais je ne rechigne pas.
Alors on va passer à un autre volet, on va dire, de la discussion, puisque on parlait d'horreur. C'est un morceau de Savon Tranchant qu'on va écouter tantôt. Mm-hmm. Hormis le fait d'être auteur, tu es aussi éditeur depuis plusieurs années, au sein de War Room notamment, mais on va surtout parler des éditions, enfin de Yon, une maison d'édition,
oui,
qui, si je ne m'abuse, est un projet assez vieux, mais que tu réactives depuis un certain temps. Toute une série de productions sont déjà sorties. Est-ce que tu peux nous parler de ça, des projets qui sont liés à ça, pourquoi ça se réactive maintenant, et de la musique aussi, parce que tu fais de la musique aussi, un peu toutes ces choses.
Alors en fait, Yon, au départ, c'était une microstructure de fanzine où je faisais des... Enfin, c'est là que j'ai développé mes premières bandes dessinées un petit peu intéressantes. À mon avis, et j'avais fait ça aux Arts Déco, et c'était une structure qui m'avait permis à ce moment-là de me mettre en relation avec Vendrille Leroy, qui faisait Pierre Feuille Ciseaux au même endroit, au même moment. Et en fait, on a monté après Varum tous les deux pour créer une maison d'édition de bande dessinée alternative, parce que on a essayé de défendre des auteurs qui faisaient une bande dessinée un petit peu différente, dans des formats un petit peu différents de ceux d'habitude. Et donc moi, j'ai fait tous mes premiers livres là-bas, et voilà. Après, là, on est arrivé à un moment où je ressens plus la nécessité profonde de ma place en tant qu'éditeur de bande dessinée en ce moment. Donc, de fait, je suis en train de laisser les clés de Varum à Vendrille et de créer Yon, qui, là, va plutôt être axé sur le dessin, en fait, et pour faire des livres de dessin. Parce que là, je trouve qu'il y a d'autres voies à explorer qui ne le sont pas encore, qui sont de faire des livres avec des dessins qui soient ni des recueils de carnets de croquis, ni des gravzines collectifs avec chacun qui donne son petit dessin, et avec des choses qui soient aussi d'autres formes de livres que des recueils de dessins contemporains qui souvent ne sont pas très intéressants ni très jolis à regarder, quoi. Donc là, c'est des choses parfois très, très douces, à la limite de l'illustration enfantine, comme le livre de Marine de Guérive là, qu'on a sorti, enfin que j'ai sorti récemment, qui, enfin, est ni du dessin alternatif, ni spécialement de l'illustration. Enfin, c'est quelque chose d'indéfini. Et moi, c'est un peu dans ce genre d'objet que j'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose de nouveau en ce moment. Après, Yon, j'avais d'abord commencé par coéditer le livre disque de Savon Tranchant avec La Cafetière. Et donc ça, c'était ça rejoignait de fait les deux axes de création que j'ai depuis des années, qui est de faire d'un côté de la musique et de l'autre côté de la bande dessinée et du dessin, quoi. Donc c'est une bande dessinée qui a été faite à quatre mains avec Sophie Savon. Donc moi, mon nom de guerre, c'est Benoît Tranchant quand je fais de soit de la poésie déclamée, soit de la chanson. Et donc il y a le CD où on a enregistré ensemble un album, et après on a fait une bande dessinée à quatre mains aussi, donc photographie, collage et bande dessinée, voilà.
Ok, et il y a d'autres projets du coup, pour terminer un peu là-dessus, qui sont en cours, comment est-ce que...
Bah oui, il y a d'autres projets là. Il y a deux livres qui vont sortir en novembre. Donc il y a un livre qui s'appelle Aquarium d'Amandine Ciosi, qui est une illustratrice complètement folle, qui dessine des fonds d'aquarium dans lesquels se sont incrustés un cirque. en fait, globalement, avec un orchestre de rouquins qui vient faire de la fanfare, avec un homme canon qui décide d'utiliser la pieuvre à la place de son canon, enfin plein de choses vraiment très, très bizarres, mais à la fois avec un trait enfantin, en couleur, qui rappelle des illustrations des années 70, enfin qui est vraiment quelque chose de très très particulier. Et puis un livre d'Étienne Potier qui avait fait Jamais en dessous de 130 chez Varum, mmh. et qui lui travaille sur la gravure et l'estampe, et là il a fait toute une série sur des bustes de gens qui sont reliés à ces expériences en free party et en rave, ou donc des gens qui dansent avec des capuches, enfin vraiment un travail très beau, très plastique autour de la danse et de gens qui a priori sont pas là pour être beaux, en fait c'est aussi très particulier, et je pense que ça c'est des choses que il y a pas grand monde à part moi qui pourrait avoir envie de publier ces choses là donc voilà ce que je vais faire.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup Benoît. On va
merci à vous.
On va se quitter donc en écoutant l'horreur, donc un extrait
qui est une chanson horrible.
Qui est une chanson horrible, boucher les oreilles de vos enfants. Et voilà, donc qui est sur l'album Savon Tranchant, qui est aussi disponible à la librairie et voilà, c'est parti. Flow
Cher Meurt par mes ongles et par mes dents. J'ai assassiné mes parents. J'avais faim. Dans ma bouche roulait leur sang, explosaient les filaments. J'étais un chef, un voyou.
De retour pour, bah pour cette dernière partie d'émission Radio Grand Papier. Vous en avez bientôt fini avec nous. On accueille un trio pour cette dernière demi-heure, plus ou moins. Mathias Picard. Bonjour Mathias.
Bonjour Philippe.
Olivier Bron. Formidable. Tout ce qu'on a, évité jusqu'à maintenant. Formidable. Et Simon, par contre, je connais pas ton nom, Simon, mais c'est pas très important, mais donne-nous ton nom, Simon.
C'est Lieberman. Simon Lieberman. Bonjour Lieberman. Philippe.
Voilà. Bienvenue à vous. Avec Olivier et Simon, on parlera des éditions 2024 juste après, mais on va commencer avec Mathias pour parler d'un bouquin qui est sorti ce printemps à l'association qui s'appelle Janine. Donc il y a ce qui est pour faire très très vite, et après on va te laisser enchaîner et te bombarder de questions, qui est donc cette histoire, ce récit qui tourne autour d'une rencontre, d'une vraie rencontre, tout à fait réelle, donc entre toi et Janine, qui est une prostituée, qui était ta voisine en fait. Donc vous êtes rencontrés une série de fois, elle a commencé à te raconter sa vie, et puis les choses se sont enchaînées, et puis voilà, on t'écoute nous parler de ce livre, comment ça s'est construit, bah, comment...
Pour les gens qui n'ont pas le récit entre les mains comme c'est moi maintenant, donc Janine raconte donc aussi bien la vie de cette prostituée, Janine, que ta rencontre avec elle, donc sur le mode, on pourrait le dire, d'un Moses Spiegelman, c'est-à-dire que il y a une forme de mise en abîme dans laquelle tu places aussi des conditions dans lesquelles tu reçois ce témoignage à l'intérieur du récit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as planifié? Tu aurais pu faire, par exemple, la vie de Janine depuis son enfance jusqu'au moment où tu la rencontres, toi, en t'omettant toi-même comme narrateur, mais tu es là, et ça te semblait important?
Oui, en fait, j'ai rencontré Janine, bien sûr, elle était voisine, mais elle était prostituée. Mais j'avais pas jamais eu envie de faire une histoire sur une prostituée. Je vois pas pourquoi je serais en partie là-dedans. Donc, c'est vrai que l'idée de montrer cette rencontre, et surtout le personnage humainement de Janine, m'intéressait beaucoup, parce que finalement, c'est une personne qui raconte son histoire. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, de s'y me confronter. Je me suis jeté dedans aussi pour sortir de mes productions de fiction, ce que j'avais plutôt l'habitude de faire. Et là, j'avais une matière première réelle, super intéressante, aussi grâce à elle, parce que c'était un hasard, une rencontre un peu de hasard. Et
cette vie super riche, quoi.
Cette vie super riche, c'était d'autant plus un hasard, c'est que je suis tombé vraiment sur une personne incroyable. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas non plus voulu raconter qu'une histoire incroyable. Ce qui m'intéressait, c'était de décrire ce personnage, de faire un portrait de cette personne qui raconte sa vie à une personne qui fait un livre sur elle. Parce que c'est hyper important dans le récit, c'est ça que j'ai voulu montrer. C'était comment cette personne trouve les mots pour parler à un livre et donc à des lecteurs. Ça aurait pu être aussi au cinéma, parce qu'elle a toujours rêvé de faire un film sur elle. Mais bon, voilà, elle a été un peu surprise que je fasse une bande dessinée. Mais aujourd'hui, elle est assez contente.
Qui n'est pas un vrai livre, mais enfin, ça c'est...
Oui.
Vaste débat.
C'est pas tout à fait une distorsion, mais on sent bien que toi tu viens avec des envies et un projet, et en plus bon, ça va être à l'association, ce qui est pas, c'est pas comme si elle était invitée chez Drucker pour raconter sa vie, quoi. Et on sent bien, elle, que bon, elle rêve quand même un peu de gloire, elle aimerait bien que sa vie soit racontée, que ça scintille, quoi, que ce soit un peu que ça fasse pleurer.
Que je peux peut-être rajouter, c'est qu'elle, au moment où ça s'est fait, moi j'étais encore étudiant à Strasbourg, je savais pas du tout que j'allais éditer à l'association, du moins avec Lapin. Je ne l'ai pas fait au fur et à mesure de Lapin. Par contre, j'ai vraiment...
C'était pas un plan machiavélique.
Je ne l'ai pas rencontré. Voilà. Il n'y avait pas de projet d'édition. C'était juste... je me suis lancé dedans. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Tu le fais ce soir ou tu le fais. Tu le feras pas, parce qu'après, j'allais partir. Et pendant un an, donc la dernière année où j'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg, ben, voilà, je suis allé la voir genre en septembre. Et régulièrement, à chaque fois que je la croisais, je m'arrêtais. On discutait dans sa voiture, ou alors je montais chez elle. Et j'ai accumulé un peu les interviews, ou les entretiens, on va dire,
les notes
et j'ai trouvé cet axe, parce que pendant un moment je savais pas non plus où j'allais partir, j'avais pas aucune intention particulière, et surtout pas m'embarquer dans un truc sur la prostitution.
À un moment je me demandais, parce qu'on, bon, le hasard fait qu'au niveau calendrier tu sors en France en même temps que Chester Brown aux États-Unis.
Oui.
Et donc pour des tas de gens qui chroniquent la bande dessinée, je sais que Duneuf aussi a fait un rapport entre ton boulot et celui de Chester Brown. Donc c'est pas le portrait d'une prostituée, c'est aussi le portrait d'une femme qui à un moment dans sa vie est prostituée, donc c'est pas, ça se résume pas à ça. Et à un moment on voit que t'as une matière de fou, en fait t'as accès à ses archives, à ses notes qui correspond vraiment à cette facette là de sa vie, et je me suis dit, tiens, est-ce que t'as pas été tentée avec cette matière là d'aller plus loin? En gros, tu as fait juste son portrait de sa vie, mais on voit qu'à un moment, tu aurais eu la possibilité de t'engager dans un truc... prostitution, tu avais une matière de fou.
Oui. C'est vrai que j'avais une matière de fou, j'ai cherché un peu des choses, je me suis documenté, mais j'ai en fait ce qui m'a limité, enfin là où je me suis mis une limite, c'est que je me suis arrêté à ce que Janine disait. Et je suis pas, enfin même si je suis allé me documenter, j'ai lu un peu des choses sur la prostitution, savoir ce que c'était aujourd'hui. Elle qui a milité dans les années 70, j'ai essayé de voir un petit peu, de retrouver, j'ai retrouvé quelques petites choses sur elle, mais j'allais pas en parler parce que je voulais rester dans son discours à elle. Et si je venais faire une confrontation, là je m'engageais. Et je me réappropriais le personnage. Moi, je suis dedans aussi, mais je m'efface parce que je voulais pas non plus faire un livre sur moi. Enfin voilà. Et petit à petit, j'avance. J'en suis arrivé à faire ce livre, quoi, tout simplement.
Est-ce que tu as lu entre temps le Chester Brown qui est sorti?
Non, pas encore, mais je compte bien le faire.
C'est vrai que dans les tonalités, on a tous été très marqués par le côté militant quelque part de Chester Brown sur. Il faut dépénaliser la prostitution, la décriminaliser, etc. Et puis après, lire Janine, qui est centrée sur une personne, une expérience très riche et qui dépasse la prostitution. Mais c'était, ça répondait, ça résonnait beaucoup avec le Chester Brown.
On a deux livres qui humanisent vraiment la prostitution, deux visages, toi avec encore...
vachement de tendresse et qui donne un portrait complet. Comme ça, le Chester Brown, c'est beaucoup plus distancié. Mais d'un coup, pouf, dans le paysage de la bande dessinée, t'as deux... T'as deux éléments comme ça.
Très fort du côté du client, puisqu'il se décrit sa propre expérience, mais très très vite, comme c'est quelqu'un qui est extrêmement froid dans son rapport au monde, il parle tout de suite d'autre chose que lui-même, qui est de la condition des prostituées, etc., tout en restant extrêmement méthodique et distancié par rapport à ce dont il parle. Ici, tu parles du point de vue de la prostituée elle-même, et ce qui est assez beau, c'est le fait que tu campes la vie entière. D'ailleurs, tu commences par une scène dans laquelle elle découvre la prostitution par un petit biais, et puis très vite on saute sur autre chose qui est sa vie, l'Algérie, le fait que son histoire personnelle, les immigrations italiennes, etc. Donc on est très vite dans quelque chose de foisonnant au niveau des souvenirs qui nous montre que la prostitution est une partie de cette vie, même si ça a été son boulot pour l'ensemble de sa vie, ça tient part égale à côté de sa carrière potentielle de nageuse, ce genre de choses. Donc ça donne un aspect très très touchant à ce récit, et qui donne vraiment une densité à cette femme, bon, qui par chance a une vie extrêmement remplie. En avançant dans le bouquin, on découvre encore des points, on se dit mais non, c'est pas possible, il y a pas encore ça en plus. À un moment donné, on se dit est-ce que c'est un personnage de fiction, ou est-ce que c'est un, mais on a des touches qui nous permettent de comprendre qu'on est toujours dans l'autobiographie, et donc il y a une richesse assez incroyable dans ce boulot, qui est avec le Chester Brown, de fait on a une espèce de diptyque quasiment qui se répond à c'est bien.
À un moment, toi-même, tu doutes en fait par rapport à son récit. Ça.
Oui, c'est vrai. Et, en fait, ça, c'est juste mon regard, moi. J'ai voulu le transmettre avec ces doutes, ces choses-là. Comment dire, ne pas.
Pour revenir sur Maus, c'est un bouquin dans lequel Art Spiegelman se dit qu'il ne peut pas restituer pleinement cette histoire s'il ne peut pas parler de son rapport à son père, de rapport à la Shoah, etc. Et donc c'est une forme d'honnêteté intellectuelle que de placer le contexte dans lequel elle a reçu le message. Et donc ici, c'est cette forme d'honnêteté-là que tu cherches, de dire... voilà, à un moment donné, elle me sort une revue de presse dans laquelle son nom est quasiment pas cité. Est-ce que c'est pas de la fabulation? On sent qu'il y a... Tu voulais restituer toute la complexité de cette relation là aussi.
Oui, c'est dur d'en parler parce qu'en même temps, j'ai réussi. Enfin, je pense avoir mis ce que je voulais dans le livre, et je voudrais pas non plus trahir tout ça, mais c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup réfléchi. C'est jusqu'où je vais dans mes doutes aussi, comment je les montre, parce que j'en ai eu vraiment. Ils sont à peu près similaires à ceux qu'il y a dans le livre, mais quand elle me raconte des histoires, comme le lecteur, j'ai été un peu subjugué, étonné. Je me dis mais c'est pas possible, et j'ai dû aussi limiter les événements à raconter, parce que au bout d'un moment on aurait pu se dire, enfin ça peut aller vraiment plus loin dans ce qu'elle me raconte, mais j'ai essayé de mettre le minimum. Il fallait pas trop peu en mettre trop peu, parce que le lecteur ne pouvait non plus pas sentir ses doutes.
Moi je trouve ça très juste, et c'est marrant parce que moi, je doute au même moment que toi dans le livre. Je me dis putain, quand même, attends, cette vieille Enfin, elle en rajoute à mort, en fait. Et puis, on sent... je trouve ça hyper juste et super subtil, la manière dont tu amènes ça. Pouf, tu remets juste un petit peu en cause, mais on voit que c'est super délicat comme approche. Enfin, c'est ce qu'on ressent en tout cas quand on lit le livre.
Mais moi, voilà, c'est vraiment à partir du moment où j'ai ressenti ces doutes et que voilà, je continue à l'avoir et je ressentais ces doutes, c'est là où je me suis dit, bah, je vais faire le livre sur elle et je vais le raconter de cette manière. C'est vraiment ça, en fait, le pivot qui m'a fait sortir d'une histoire de prostitution ou d'une histoire un peu, je dirais, pathétique parce qu'elle, si vous voulez la raconter, elle la raconterait bien chronologiquement en mettant sa jeunesse très pauvre, ses yeux
très pauvre,
un peu aveugle, ben, très très pauvre, aveugle, et en même temps tous ses exploits. Et ça, en fait, j'en parle même dans le livre, je montre.
Les deux pages,
voilà,
pages, ouais,
les deux premières pages de son roman, où je lui ai dit, mais continuez, faut pas s'arrêter. Mais bon, là, elle y repense un peu maintenant. Elle veut toujours qu'un écrivain écrive cette histoire ou qu'un cinéaste s'en occupe.
Est-ce que tu n'as pas aussi quelque part répondu à la question du doute par rapport à la subjectivité aussi, Janine, en mettant en scène ta propre subjectivité, c'est-à-dire cette scène où tu dessines son père et qu'elle te dit tu ne l'as jamais vu, comment est-ce que tu peux le dessiner? Puis la scène aussi où elle parle de la prostitution et puis tout d'un coup tu te montres avec des petits nuages comme troublés, où elle te dit mais ça va, tu veux le dire. C'est cette façon de te présenter comme étant marqué par son histoire au-delà de sa véracité.
Oui, bah c'est tout simplement le choix de m'être montré moi-même, parce que c'était pas obligatoire de montrer, j'aurais pu me raconter sa vie autrement, et toutes ces petites choses, en fait, elles sont accrochées au personnage qui me représente dans le livre pour faire vivre un peu ces moments d'entretien, de rencontre. Je voulais pas que ça soit journalistique, ça, et puis moi j'ai tout découvert au fur et à mesure où elle me le racontait, tout ça. Donc je prends les choses et puis je réagis aussi devant elle en direct, et j'ai essayé de garder ces moments que je trouvais très importants. Et
ce n'était pas aussi une manière de dire, que ce soit vrai ou pas, c'est une histoire puisque c'est une fiction.
Ouais, tout à fait.
Toute vie passée est une fiction quelque part. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle raconte, et pas forcément si c'est vrai ou pas.
C'est ça, j'ai pas voulu aller rechercher trop loin. Bon, maintenant j'ai envie de retrouver un peu des choses, mais pour le bouquin, ouais, j'avais pas envie de montrer, elle a pas dit tout à fait la vérité, ou ça aurait vraiment rien apporté, et ça aurait pu tourner un peu bizarre.
C'est vraiment important. Moi, ouais. J'aimais bien aussi l'idée, de nouveau, peut-être un peu en opposition avec le Pain Fury de Chester Brown.
Très intellectualisé, on sent presque une sorte de calcul comme ça dans le bouquin, où ici j'ai l'impression qu'il y a. Il y a la part qui est faite au hasard, et presque à la fois dans sa vie à elle, dans votre rencontre à vous. Et donc il y a tout ça, cette notion de hasard qui pour moi est assez, assez présente dans le bouquin, et presque dans la démarche et tout ça. Donc ça, je trouvais ça finalement voilà, assez beau, assez touchant, assez particulier aussi. Et voilà, ça fait partie un peu du charme du bouquin.
Au-delà de tout ça, on sent un personnage dont l'ego est blessé, et ça, de pouvoir ressentir cette fine pellicule par-dessus le reste du récit, est quelque chose qui est une belle prouesse narrative, je trouve. Donc c'est vraiment un bouquin assez réussi, il faut le dire.
Ouais, en termes de narration, en tout cas, bon, je trouvais intéressant de, voilà, rien qu'en termes de scénario, de pouvoir emmener un lecteur dans une histoire où on doute si c'est une réalité ou si c'est une fiction, ça, je trouvais ça passionnant, donc je voulais le transmettre. Et voilà, quoi.
Ok, on va passer aux éditions 2024, du coup, peut-être dans un premier temps, en tout cas, plus passer la parole à Simon et à Olivier. Donc les éditions 2024, c'est une maison d'édition assez récente, si je ne m'abuse. On pourrait lancer la discussion par une réflexion qu'on s'est fait déjà il y a un certain temps. On avait chroniqué dans l'émission radio Les Derniers Dinosaures, donc il y a déjà quelques mois. Et on s'était fait la réflexion, ce bouquin est assez classe, même luxueux, pourrait-on dire, dans un marché de la bande dessinée qui pour l'instant est assez difficile. Donc on trouvait ça, on trouvait que c'était une démarche assez culottée, en fait. Donc voilà, ça c'était une réflexion qui nous était venue. Après, on se demande aussi, enfin, pour nous c'est intéressant de savoir quelle est la genèse de la maison d'édition, quelle est peut-être sa ligne éditoriale, comment on fonctionnait, comment voilà.
En fait, c'est pas notre première tentative. Enfin, tentative, c'est pas une... on va pas parler de tentative. Avant ça, on était membre du collectif Troglodyte, qui éditait le fanzine Écarquillette. Et bon, là, il y a 10 numéros parus et quelques bouquins qu'on avait fait jusqu'en... Ça a duré... Enfin, bon, ça continue toujours, mais c'est un peu en sommeil. Voilà, donc c'est voilà, du Forzina, donc à chaque fois c'est de la photocopie avec couverture sérigraphiée, des petits tirages. Et on faisait ça aux Arts Déco de Strasbourg, on a fait nos études tous. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'édition, c'est ce qui nous a donné envie de faire des livres.
Ouais, puis en fait on a fait un. Sur. Après un an et demi, deux ans d'existence, on faisait de plus en plus de petits bouquins à côté de la revue. Avec à chaque fois un projet d'auteur, et puis jusqu'à ce que Simon nous amène un projet qui était assez long, qui était avec pas mal d'investissement de temps dessus, 100 pages sur sa grand-mère, et pour lequel on a eu une bourse, donc on a tiré en offset, qu'on s'est dit on va voir si on en fait un peu plus, comment ça marche et tout ça, et qui a vraiment aussi mis en lumière ce que le collectif pouvait pas faire pour... À un moment, l'autodiffusion, c'était beaucoup d'énergie, c'était beaucoup de temps, et on n'y arrivait pas un peu. Et l'enjeu de 2024, c'est un peu ça, c'est de réussir à assumer une diffusion qu'on délègue. Du coup, ça coûte des sous. ça implique tout un tas de... toute une réflexion qui est vachement différente, parce qu'il faut rentrer dans des projets qu'on a vraiment envie de défendre. Du coup, il faut... En fait, finalement, il y a beaucoup d'énergie à mettre aussi pour l'accompagner, même s'il y a moins d'énergie avec les libraires directement. Et voilà, en fait, c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on faisait juste avant, mais en essayant de voir comment ça marche avec des plus gros tirages et une diffusion un peu plus large.
Et comment alors se fait le choix des projets, parce que donc on a parlé des derniers dinosaures, mais plus surprenant, le projet qui a suivi, il me semble, qui sont les aventures intersidérales de Jean-Pierre Vortex, qui se présente plus sous forme de cartes pop-up. Puis après, on pourra enchaîner sur le projet que vous avez avec Mathias. Mais comment c'est le choix de ces projets se fait
Les dinos, les derniers dinosaures, il était vraiment. Il s'est monté conjointement à la structure. Donc Donatien, l'illustrateur, était dans notre classe et dans le collectif Troglodyte. Et c'est aussi parce que ce projet-là existait, enfin celui-ci et celui de Mathias. C'est les deux projets qui étaient là, dont on savait pas trop où est-ce que ça pouvait exister, qu'on avait quand même envie de faire exister. Ça nous a aussi motivés, c'est ça qui nous a poussé à dire allez, on se lance, on se structure. Ça, c'est des super livres. Et on leur donne la vie qu'ils méritent. Enfin, on essaye. La ligne.
En fait, c'est la question à 1000 points. Ouais, enfin, ouais. Une partie d'entre nous, en tout cas, fait partie d'une structure d'édition aussi. Et la ligne éditoriale, c'est une question qui revient presque chaque semaine. Quoi. Mais donc, c'est pour ça qu'on aime bien la poser aussi.
Finalement, il y a des projets dont on voit bien qu'ils n'en font pas partie. C'est plus facile dans ce sens-là que.
Plus par élimination parfois que. Ouais.
C'est plus. On a un goût de l'édition. Après, ça peut se porter sur pas mal de... Ça peut prendre la forme de pas mal de livres et d'histoires différentes. Enfin, j'insiste sur le mot histoire, parce que c'est plutôt ce qu'on a envie d'éditer, justement. C'est pas juste de l'illustration. Il faut que ce soit une histoire qui peut prendre la forme de BD ou d'illustration. Et après, ce qui nous intéresse aussi, c'est la forme de l'objet, du livre. Comment on l'amène, effectivement, jusqu'au lecteur, du coup, tout ce qui nous intéresse, c'est de travailler à côté, le graphisme, sur quel papier on va l'imprimer. Là, la question du pop-up, c'est typiquement ce genre de questions qui nous intéressent. Mais c'est vrai que on va justement un peu vers des projets un peu bizarroïdes qui sortent des formats qu'on voit habituellement en librairie. Et je pense que c'est aussi un peu comme ça qu'on peut le définir.
Euh, déjà hyper généreux et aussi super ludique. Il y a quelque chose sur Écarquillette, le numéro que j'ai entre les mains, là, la couverture, si je me trompe pas, elle est phosphorescente, hein, ouais. C'est ça, dans la nuit. Le dernier dinosaure, il y a un soin, il y a l'embossage, la petite partie brillante, et alors l'expo en bas avec les lunettes 3D, la générosité avec laquelle vous invitez les gens dans votre univers, le soin que vous apportez à faire les livres et tout ça, que ce soit dans du fanzine ou dans le livre ou dans Vortex, c'est vraiment très présent, c'est flagrant quand on regarde votre travail.
Un fanzine un peu pourri des années 90 ou même des années 80 ou de quelque chose assez sauvage, si on compare ça par exemple à certains boulots comme le supermarché Ferraille, où on sentait qu'à un moment donné il y avait un désir de créer un univers avec un degré de fini. Ici on a encore un niveau supérieur, c'est-à-dire que l'exposition qui se trouve ici en bas est quelque chose d'extrêmement léché, de très bien abouti au niveau de l'univers qui est proposé. Et dans les bouquins, on retrouve un peu ce même soin du détail. Est-ce que c'est quelque chose qui importe pour vous?
Oui, bah oui, oui, sinon on n'y mettrait pas autant d'énergie. Non, le côté ludique, je crois que c'est aussi ce qui nous plaît dans les bouquins qu'on aime par ailleurs. Donc, bah, forcément, ça rejaillit aussi de faire des livres qu'on peut manipuler, des livres où l'objet amène déjà le lecteur vers le contenu. Enfin, c'est des questions qui nous intéressent aussi vachement. Savoir, forcément, si on prend les derniers dinosaures, on ne va pas le lire de la même façon que s'il était souple et qu'il était tout petit. C'est un livre qu'on peut qualifier de luxueux, mais finalement, on l'a fait comme ça parce que c'est un pastiche de livre scientifique. Autant l'auteur que l'illustrateur se réfèrent à des textes du 19e, à une idée de l'édition aussi qui était hyper classe. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a cherché à travailler le bouquin dans ce sens-là. Peut-être qu'un autre projet, il sera beaucoup mieux avec un papier tout pourri et que ça l'accompagnera beaucoup mieux. Et puis à ce moment-là, on prendra ces types-là.
Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, on peut un peu décrire l'expo de Jim Curious. C'est quand même très très particulier. On plonge, donc les visiteurs sont quasiment plongés dans l'obscurité. Il y a des jeux, donc dessin phosphorescent, un jeu avec la 3D. Vous pouvez un peu expliquer, décrire la chose?
Donc, édition 2024 avec Mathias Picard, donc c'est pour ça qu'on vous a invité ensemble évidemment.
Oui, voilà. Donc, je vais laisser Mathias parler de son bouquin.
Pas mal.
Pour les intentions, c'est vrai que là, pour cette expo, donc on nous a proposé l'expo il y a quelques temps, et on s'est dit, on va faire une expo sur Jim Curious. Il faut savoir que le livre n'est pas encore sorti et que je suis en train de le faire. Donc c'était déjà une super opportunité.
Il sortira en octobre.
Peut-être un peu après, on va voir. Okay. Il y a l'été, on va prendre des vacances. Et en fait, là, on était à fond pendant 2 semaines à penser cette expo et à fabriquer les boîtes pour les dessins originaux, parce que c'est une technique assez particulière. On a trouvé un intérêt à montrer ces dessins originaux qui ne sont pas de la 3D anaglyphe. Je ne sais pas si on a mentionné que ça serait un livre en 3D anaglyphe avec les lunettes, donc c'est le cas, mais on n'a pas montré principalement ces anaglyphes. On a montré des dessins originaux qui sont faits sur des papiers transparents, des rhodoïdes, et chaque plan, en fait, l'anaglyphe décompose des plans, et là, sur chaque plan, sur chaque papier, on a un plan. Donc c'est, on mettra des photos un jour sur Internet pour que les gens comprennent.
Ce qui est marrant, c'est que ça se passe dans un univers aquatique, et alors c'est en résonance avec l'objet en soi qui est une boîte en plexi dans laquelle on a différents plans, et qu'au premier plan, le poisson, derrière Jim Curious dans son scaphandre. Tout est très cohérent, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un petit univers vivant dans une boîte.
L'expo est précédée d'une série d'un historique.
D'une série de personnages qui ont mené par essai-erreur et souvent d'un destin tragique jusqu'à la création de cette technologie que vous employez, en fait.
Tous ces personnages sont suisses, il faut préciser. On est dans une exposition qui a lieu en Suisse, à Sierre, et on s'est dit que ça serait amusant de faire passer tous ces personnages inventés pour des Suisses qui auraient inventé tous les procédés de la 3D et qui se seraient fait repiquer les idées par des Américains, C'était...
Il s'agit d'un vaste complot contre la Suisse, voilà. En fait.
Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a entendu des gens qui croyaient.
Oui.
Donc, on est très contents.
Ben, moi-même, jusqu'à 10 secondes, en fait.
Non, oui, c'était aussi l'occasion, du coup, sur l'expo collective, donc au début, sur les procédés 3D, là, il y a toute la bande de copains de Troglodyte qui est intervenu, qui a géré l'impression aussi, et c'était aussi l'occasion de ne pas faire une expo juste 2024 sur nous et de continuer le travail commun. Et on n'a pas fait de bouquin ensemble récemment, mais finalement c'est aussi ce genre d'occasion là qui fait qu'on peut bosser ensemble.
Et est-ce que cette expo sera visible ailleurs? Est-ce qu'elle est appelée à voyager ou...
Ouais, on espère.
Elle peut rester qu'en Suisse, en fait.
Ah bah oui, ou alors faut tout changer, c'est pour les personnages belges et tout ça. C'est
on mettra des post-it par-dessus.
Ah bah oui, vous avez pensé à tout, évidemment.
Non, mais on peut peut-être trouver, je sais pas, la Suisse peut peut-être nous subventionner si on fait la promotion.
Profitez-en, vous êtes à l'antenne, c'est le moment de lancer un message vibrant à toute la nation.
Non, cela dit, le fait qu'elle tourne l'exposition, c'est important, enfin le... Sur les dinosaures, il y a une expo aussi donc, qui a été montée cette fois avec Angoulême en janvier dernier. Et on fait vraiment peu de bouquins par an, on veut en faire maximum 4-5. Et l'idée, c'est quand même à chaque fois d'essayer d'avoir un projet global avec une expo, avec des à côté qui enrichissent l'univers, qui le présentent, qui permettent de l'amener. Et là, l'idée, bah, c'est que ça tourne le plus longtemps possible pour prolonger aussi la vie du bouquin en librairie, parce que l'expo, elle peut continuer de tourner pendant 5 ans. Et on préfère faire peu de bouquins, les défendre à bloc le plus longtemps possible, plutôt que d'écraser un peu. De toute façon, on n'a pas les moyens non plus, rien qu'en termes de temps, de sortir 15 bouquins. Donc on préfère en faire peu. Mais par contre, voilà, cette idée de monter des expos, de les faire tourner, ou des petits films, enfin je sais pas, c'est vrai qu'on parlait des requins tout à l'heure. Bah toute la façon dont Ferraille travaille l'univers Ferraille et accompagne les livres comme ça, c'est vachement intéressant. Et puis c'est une façon de défendre les bouquins et d'amener les lecteurs vers les livres qui est vachement chouette.
Ça, c'est... Pour des Ricard Marteau, à un moment donné, il y a la question de savoir scinder, on pense à scinder les activités. Bon, ici, on discute avec eux pour des raisons qui sont aussi...
Raisons de faillite potentielle, puisqu'ils sont vraiment dans la mer au niveau pognon. Ils ont commencé il y a quelques temps à scinder des activités, ou du point de vue juridique, qui aussi, donc ce qui rend les choses très compliquées. Ici, en effet, quand on commence à faire un boulot d'éditeur, d'une part, un boulot qui est un boulot vraiment de scénographie, d'autre part, comme c'est le cas ici avec vous, ça commence à demander aussi des qualités, et des investissements, et même des corps de métier, parfois, qui sont tout à fait différents. Et donc, c'est à la fois très intéressant, et en même temps, c'est au niveau de l'investissement, c'est parfois complexe, non?
Ça devient difficile de trouver le temps de travailler pour nous.
Oui.
Enfin, c'est vous faites des beaux livres et en plus vous mettez en place des solutions qui a priori sont pertinentes pour faire exister le livre de manière un peu plus pérenne. Donc il y a un travail de com, exposition et tout ça. A priori, enfin, je me dis qu'a priori c'est assez malin comme stratégie. C'est pas le tout de faire des beaux livres. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont capables de le faire. Après, il faut les vendre. Et il faut faire exister un peu la chose à long terme.
Ben, c'est vrai que c'est un des constats aussi, c'est que quand on va en librairie, ça fait d'année en année, il y a de plus en plus de livres, c'est exponentiel, mais ça n'a pas de sens, hein, de notre point de vue, ça n'a pas de sens de... Enfin, disons que ce qui se passe en ce moment, c'est que les éditeurs essayent d'avoir le plus de visibilité en librairie. Pour avoir plus de visibilité,
ils
vont
apporter
de plus en plus de livres, et c'est une espèce de course aux armements... Les différents blocs et nous on essaye de sortir de cette logique en proposant quelques livres auxquels on croit et pas 15 000 livres.
Le fait de livres auxquels vous croyez, vous pouvez dire que c'est la surprise que vous créez qui est une fondamentale finalement dans la création de 2024, c'est-à-dire passer d'un livre luxueux comme les derniers dinosaures à des petites cartes pop-up comme Vortex et puis un livre en 3D, une espèce de renouvellement permanent, peu de livres, mais alors des livres très différents et très surprenants à chaque fois qu'on les voit arriver, en se disant à chaque fois c'est 2024, mais ça ne ressemble pas à ce que 2024 a déjà fait.
C'est ce qu'on disait avant, un peu, c'est la partie effectivement objet livre, fabrication qui nous aussi, on est un peu sans cesse à regarder ce qui se passe en pop-up, toutes sortes de pliages qu'on peut essayer de trouver, qui peuvent apporter des systèmes de narration un peu différents aussi et qui justement peuvent renouveler un peu le livre comme objet.
Comme ça, on s'ennuie pas quand on les fait aussi.
Alors, moi, j'ai une question plus globale. Vous venez tous de l'école des Beaux-Arts de Strasbourg. Et il y a d'autres auteurs contemporains, dont des gens qui éditent sur grand papier, en proviennent. Simon Roussin, qu'on a publié avec l'employé du mois, mais aussi d'autres personnes autour. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de bonnes choses qui sortent de cette école actuellement? Et notamment, est-ce que la démarche que vous, cette espèce de conscience de devoir faire exister des projets de manière un peu globale, est-ce que c'est des choses qui sont reçues, qui sont issues de votre enseignement là-bas?
De l'enseignement, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement l'encourage quand les élèves se prennent en main. Par contre, le fait que chaque promo ou groupe de copains lance son collectif, lance son fanzine, il y a un fanzine par an qui sort quasiment, qui est chaque année plus mûr que celui d'avant, quand on arrive en troisième année dans l'atelier d'Illus et qu'on te montre ce qui a été fait les trois dernières années, ça pousse à se mettre... à se prendre en main, ça pousse à se dire on va leur foutre un coup de pied au cul
une saine émulation quoi.
Ouais, je crois que ça marche pas vraiment bien. Les classes marchent souvent bien, il y a une vraie qualité de recrutement, des gens qui réagissent bien entre eux
Bon, j'avais une question très pratique, mais on a eu l'occasion déjà de discuter avec pas mal de maisons d'édition on va dire de votre gabarit, mais comme du gabarit de la note, l'employé du mois et de plein d'autres. Et souvent, il y a, c'est pas vraiment un dilemme, mais il y a un choix entre des maisons d'édition qui décident de travailler beaucoup au niveau des livres et qui, avec l'objectif d'avoir un ou deux salariés pour travailler au sein de la maison d'édition. Et puis des maisons d'édition, comme la nôtre par exemple, où dès le départ on a fait plus ou moins le choix de se dire on est bénévole et on a un boulot à côté et on travaille sur la maison d'édition et sur les livres quand on a la possibilité, etc. etc. Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous avez fait un choix par rapport à ça ou pas nécessairement? Et vous allez voir comment ça se passe. C'est une question... qui quitte le domaine au niveau des bouquins, mais qui en fait y est relié directement, parce que forcément
on parle de pérennité.
À terme, à moyen terme, on aimerait bien avoir quelqu'un qui puisse vivre un peu de ça, au moins un dédommagement pour le temps qu'on y passe quoi. C'est pas non plus c'est pas une priorité à court terme. On s'est tout de suite dit que ça viendrait, mais après quelques années.
Enfin, c'est pas envisageable à court terme. En fait, c'est plus comme ça qu'on.
Oui.
Ensuite, effectivement, on risque de s'épuiser si on est vraiment juste. Si on tient ce rythme à deux encore pendant 5 ans, on va être juste lessivé, je pense. Mais là, jusque-là, en plus, on a aussi un peu tous nos copains qui nous aident. Là, pour le pliage de Vortex, on n'aurait pas pu plier ça à deux. C'était juste physiquement.
12 000 cartes.
12 000 cartes pop-up pliées pour l'instant. Sur les 18 000, mais...
Vous étiez 3. Non.
mais oui, on se rend pas du tout compte, en fait, de économiquement, ce que ça deviendra dans le fait d'avoir fait, 10 livres. Peut-être que... peut-être que si on a les moyens, effectivement, de payer quelqu'un, soit l'un de nous deux ou quelqu'un d'autre...
Premier enjeu, là, c'est de payer un local.
Ouais. D'accord. Et
après, on fait quand même attention, c'est aussi pour ça qu'on en fait assez peu, de se garder suffisamment de temps à côté pour remplir le frigo ailleurs quoi. Et puis on verra combien de temps on tient comme ça jusqu'en 2024
jusqu'en rendez-vous en 2024 alors.
Mais c'est vrai que ça nous prend à peu près tout notre temps. La petite inconnue, c'est si ils obligent les gens au RSA à travailler 5 heures par semaine, ça risque de poser problème aussi pour... Mais voilà.
À suivre. Et on va vous poser une ultime question. On voulait savoir, aussi bien au niveau de 2024 que de Mathias, quels sont vos projets? C'est quoi les projets de bouquins à venir, à court ou à moyen ou à plus long terme?
Donc il y a le livre de Mathias, qui sera un projet donc en anaglyphe, une plongée dans les fonds marins. Tout public entre l'illustration et la bande dessinée. On aimerait bien faire un peu de bande dessinée aussi. Donc il y a Léo Marais qui bosse sur un grand roman initiatique, un genre de Dragon Ball Z dans la France du XVIIe siècle.
Là il y a Simon Roussin. On va sortir une grande BD de Simon Roussin qui sortira en octobre, novembre.
Fin de l'année.
Ouais. Juste comme ça.
Non, après, là, bon, là, il y a les petits vortex, donc avec un principe de pliage. Avec un principe qui nous prendra un peu moins de temps pour plier, on aimerait bien sortir d'autres petites pochettes comme ça sur des livres à manipuler, à monter, pour jouer avec. Puis après, on verra.
C'est déjà pas mal.
Okay.
Et toi ?
Toi, Mathias, t'as d'autres projets Jim Curious.
J'ai des projets, mais ils sont encore dans le fond de ma tête. Voilà, je vais juste donner la thématique, ça sera peut-être sur la pêche.
Sur la pêche. Très bien. Tu as un voisin pêcheur ou
Non, mais non. C'est vrai que je vais avoir un truc avec la pêche et les poissons. Et bon, on verra ça. On fera le point dans 20 ou 30 ans.
Très bien.
Une psychanalyse.
On espère avoir l'occasion d'en reparler. Très bien. Ben, merci beaucoup à vous.
Merci.
Je vais faire je vais refaire la petite liste des remerciements, mais juste après ça, on passera un morceau qui sera le dernier pour clôturer l'émission. Donc d'Éric Serra, Le Grand Bleu. Est-ce qu'on peut juste vous demander, avant de nous quitter, pourquoi ce choix ?
Elle dure 4 minutes 40.
On va la passer en entier.
Oui, tout à fait. L'arrêter à 2 minutes 24.
On va le passer en 4 minutes 40.
Ouais, c'est une chanson, une musique d'Éric Serra. Et je trouve que c'est un peu comme un voyage en apnée. Et plus c'est long, mieux c'est. Donc passons-la en 4 minutes 40.
Quelle spontanéité, c'est formidable. Bon, ben merci beaucoup à vous. Merci à tous les invités, donc à Benoît aussi, près de Seille, à Alex Baladi qui vous ont précédé. Merci aussi au Festival Sismix de nous avoir invités. On pense à Christophe, à Alex et aussi à Blaise qui a installé tout le matos là cet après-midi. Vous dire aussi, pour ceux que ça intéresse, que toutes les interviews seront podcastables sur le blog, donc c'est radio.grandpapier.org. Podcastable à mon avis d'ici quelques jours. Il y a des cartes postales aussi qui traînent un peu partout avec l'adresse du site. Donc vous pouvez trouver ça comme ça aussi. Et puis nous, on reprend nos émissions mensuelles à partir du mois de septembre avec Nicolas qui nous a un peu manqué, qui fait toutes les émissions avec nous d'habitude, mais qui ne pouvait pas nous accompagner. Nicolas, quoi ? Nicolas est réellement en train de faire de la plongée. Actuellement, on peut lui dédicacer cette émission aussi. Donc on se retrouve fin septembre, j'ai pas la date exacte, mais ce sera avec Gilles Rochier comme invité, et puis plus tard en octobre avec Nilso, et puis ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup à tous, et on écoute l'incroyable Grand Bleu.
Merci.
Merci à vous.
Ah. C'est tellement profond qu'on n'entend rien.
Oudou.
Moi je suis pas fort en dauphin. Un talent caché.
Thank you.